Et nous revoilà pour une émission collective du projet Saint-Marcond. Saint-Marcond, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marcond.
Bonjour à tous.
Faut rêver, bien
bonjour
sûr.
Bonjour à toutes.
Faut toujours rêver.
Mais en fait, on vit dans un monde où si t'as pas d'argent, t'as rien.
Cœur paillette.
Après, quand tu rêves, peut-être tu réaliseras tes rêves.
Merci à vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Saint-Marcond, le projet radiophonique de l'AMO Saint-Marcond. Vous êtes avec Joséphine et Clara en co-animation.
Bonjour à tous.
Oui. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une classe de l'Institut Enfant Jésus qui sont venus enregistrer une émission avec nous. Et je vais vous demander de vous présenter en commençant par ma gauche.
Moi je m'appelle Kilina.
Moi c'est Lucie.
Bonjour.
Moi c'est Salma.
Bonjour Salma.
Moi c'est Joyce.
Bonjour Joyce.
Moi c'est Daniel.
Bonjour Daniel.
Moi c'est Marco.
Bonjour Marco. Alors aujourd'hui, vous avez voulu parler de différents sujets, parmi lesquels l'argent, les consommations, les addictions, mais aussi la pression scolaire et familiale, et aussi enfin la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et pour commencer peut-être sur le thème de l'argent, je vais vous demander comment ça se fait déjà qu'à vos âges, on pense déjà à l'argent. Pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet aujourd'hui?
Je prends la parole, parce que à notre jeune âge, on pense déjà au travail parce que à l'école on nous parle souvent de vous allez faire quoi plus tard, quel métier vous allez faire, etc. Et du coup nous instinctivement quand on pense au travail on pense directement à l'argent, combien ça va gagner, etc.
Pour les autres, à quoi ça vous renvoie l'argent à vos âges aujourd'hui là? Quel sens ça a l'argent dans votre quotidien?
Tout.
Est-ce que tu peux un peu développer, Joyce?
Parce que tout se paye avec l'argent, la facture, la maison, tout, enfin, du coup.
Est-ce que tu dirais du coup que l'argent, ça fait le bonheur?
Oui.
Oui? Vous êtes d'accord avec ça, les autres?
Oui.
Oui. Est-ce que vous pensez que donc, l'argent, c'est une condition nécessaire pour être heureux dans la vie?
Oui, absolument.
Oui.
Sans l'argent, on ne peut pas vivre.
Et si vous gagnez aujourd'hui une grosse somme d'argent, éventuellement, qu'est-ce que vous feriez avec
Déjà, si on veut déménager, par exemple, déjà on paye une maison, on regarde le loyer, on achète de la nourriture. Si on gagne beaucoup d'argent, logiquement, on ne pense pas instinctivement au travail. Parce que si on a une certaine somme, on ne va pas directement penser au travail parce qu'on va devoir travailler pour avoir de l'argent alors qu'on en a déjà. Du coup, on va s'acheter à manger, on va chercher une maison et voilà.
Ok. Et quel sens vous donnez au travail, vous, justement? Le travail, pour vous, ce serait quoi l'intérêt de travailler? Est-ce que c'est uniquement pour gagner de l'argent ou bien il y aurait un autre sens, une autre valeur que vous donneriez au travail?
Ce sera surtout pour faire autre chose dans la vie, parce que si on... C'est pas forcément pour l'argent, mais c'est surtout si on reste qu'à la maison, on va s'ennuyer. Il faut forcément faire quelque chose à côté. Donc le travail, ce serait pas mal.
Donc ça aussi avoir une occupation, quoi,
oui.
En dehors de ça. Est-ce que vous voudriez que c'est aussi une manière de se sentir utile, de donner un sens à sa vie?
Oui, absolument.
Oui. Et est-ce que comment vous envisagez votre futur professionnel? Comment vous allez choisir votre futur métier, justement?
On regarde d'abord ce qu'on aime faire dans la vie. Et ensuite, logiquement, on va tous penser à combien ça gagne dans la vie. Comme ça, on a déjà un projet en tête de ce qu'on va faire.
Et moi, j'allais dire, est-ce que vous savez déjà un petit peu ce que vous voudriez faire plus tard?
Ouais. Moi, personnellement, plus tard, j'aimerais bien être institutrice maternelle parce que j'aime bien le social et j'aime bien m'occuper des enfants.
Et est-ce que c'est super chouette comme projet? Et est-ce que tu as pensé au salaire, justement? Est-ce que tu as aussi choisi ça en fonction du salaire ou pas du tout?
Non, pas du tout. Ouais.
Donc, c'est vraiment parce que tu veux vraiment faire ça. Ça, c'est vraiment cool. Vocation, c'était le mot que je cherchais.
C'est quoi, vous, votre modèle, en fait? C'est quoi vos modèles à vous de réussite, entre guillemets? D'où vous vient votre vision de l'argent?
Mon père.
Ton père? Oui. Et tu saurais développer un peu?
Il sait comment gagner et il sait aussi comment l'investir. Du coup,
c'est un peu lui ton modèle, quoi. Ok. Et pour les autres?
Moi, ce serait ma tante et ma mère. Ma tante, parce que c'est un peu celle qui s'occupe de tout ce qui est travail et tout. Et je dirais plus ma mère, parce que ma mère, elle sait comment gérer l'argent. elle sait dans quoi mettre l'argent, pas trop abuser, etc. Du coup, je dirais les deux personnes.
Mmh. Et ce serait quoi gagner un bon salaire si vous pouvez, vous deviez estimer, vous, entre guillemets ?
10 000 euros. Hein.
10 000 euros par mois ? Ah ouais ?
Par semaine même.
Waouh ! Vous êtes d'accord avec ça, les autres ? Est-ce qu'il y a des réactions ?
C'est un peu beaucoup.
C'est un peu beaucoup ?
Non, moi, je dirais 2 000-2 500 par mois.
2 000-2 500 par mois ? Ok. C'est petit. Et c'est quoi la différence pour vous, alors, entre avoir assez, gagner assez d'argent et gagner beaucoup d'argent ? Où est-ce que vous placeriez la distinction entre les deux ?
Assez d'argent, c'est assez pour payer le loyer, la nourriture pour la famille, alors que beaucoup d'argent, tu peux non seulement payer ça, mais tu peux aussi faire profiter tes proches autour de toi.
Mm-hmm.
Du coup, ce serait... Ouais, c'est ça la différence.
Ok. Donc pour vous, les besoins nécessaires, si tu disais, c'est se nourrir, payer le loyer.
Et offrir aussi quelque chose à notre famille, ce qu'on ne peut pas forcément s'offrir mm-hmm. habituellement.
Ouais, quelques loisirs et quelques petits plaisirs sur le côté, quoi. Ok.
Et pour revenir à la question de gagner beaucoup d'argent, est-ce que vous êtes déjà imaginé gagner au loto ?
Ouais.
Et est-ce que c'est quelque chose qui, vous pensez, par exemple, je pense à l'euro-million, où on gagne genre 300 millions d'euros. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez avoir ? Est-ce que vous serez content de gagner autant d'argent ?
Oui.
Ouais ? Et vous pensez que avoir de l'argent et ne plus savoir qu'en faire, il n'y aurait pas un moment où ce serait trop ? Enfin, vous ne pourriez plus en profiter comme si vous gagniez des petites sommes sur la durée ?
Moi, je ne pourrais jamais être dégoûtée par l'argent.
Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Joyce.
Ouais ? Ok.
Est-ce qu'il vous arrive parfois d'acheter des choses et que vous vous dites après, bon, j'en ai pas vraiment besoin ? De faire des achats qui sont un peu inutiles, quoi. Des achats du moment, comment on dit, des achats un peu impulsifs, compulsifs.
Oui. Bah, parce que des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut. Du coup, quand on a l'argent, on se dit, bah, c'est bon, j'ai assez, donc je vais prendre ça. Mais quand on rentre chez soi et qu'on voit ce qu'on a acheté, on n'est pas forcément fier de ce qu'on a acheté.
Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous pousse du coup à leur acheter ? Qu'est-ce qui influence justement ? Est-ce que c'est la publicité ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux.
Ouais.
En fait, moi, le problème, c'est que je ne sais pas économiser. Du coup, il faut que j'utilise là maintenant.
Mm. Et tu ne penses pas qu'économiser, ça pourrait être aussi utile ? Non ? Qu'est-ce que ça pourrait apporter d'économiser d'argent ?
Mais après, c'est pas mon argent, forcément. Donc,
bon. J'allais dire, est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi tu n'arrivais pas à économiser ?
Je sais pas. C'est pas mes habitudes. J'ai essayé. Ça a duré une heure.
Ok. Et est-ce que vous voyez des différences, justement, entre la manière dont on consomme, nous, aujourd'hui, et donc peut-être nos parents ou nos grands-parents utilisaient l'argent, consommaient le rapport qu'ils avaient à l'argent. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils utilisaient l'argent, ils avaient donné une valeur différente à l'argent qu'aujourd'hui ?
À l'époque, je dirais, eux, ils géraient mieux leur argent. Ils savaient comment économiser, ils savaient dans quoi dépenser, alors que nous, cette époque-ci, tout ce qui est réseau, tout ce qui est... tout ce qu'on voit en fait dans la vie, c'est difficile de gérer. Quand on voit un beau vêtement, on se dit, allez, je vais dépenser dans ça. Et à force, c'est des achats compulsifs, quoi. Mm-hmm. Alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Ils voyaient un beau truc, ils essayaient d'économiser. Quand ils voyaient qu'ils avaient assez, ils disaient, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter ça ? Est-ce que c'était pas une bonne chose ? Alors qu'à cette époque-ci, non, il n'y a plus ça.
Est-ce que vous avez l'impression que la société nous pousse aussi ? C'est la société qui nous pousse aussi un peu à consommer, à faire des achats qui ne sont pas vraiment utiles, finalement ?
Oui.
Et est-ce que vous essayez d'adapter votre comportement à cette réalité ou pas du tout ?
Ça dépend. Mmh. Des fois, on essaie de gérer, des fois, après, on se laisse aller, j'ai envie de dire.
Ben, je propose déjà qu'on fasse une première pause musicale et on va lancer Fally Ipupa, Délibération. On se retrouve juste après.
Yo tikeli moninga yoki ata batu bakobo mwana asma kasi ngubuna maya kutikala bemu yo motoro
bakananga tokoka bwana te ata mpasi bisengo okokanga motema lelo okomi okende otikanga na nani yotiki bampota na motema nanga bomwana naluki liwaliwa eponango ngai ye mama ode mabaya papa dejano makukula na maître wi jolwabeya warzeline ekudi mama na latifa na aziz delnido makukula ebele ya bamvula tovaninga na yo mokolo moko asma yo botani manso loyenge ya mokili evipi yo bomoe yozoyoka te
yozomona te
ezadir mabaya yozalaka ne auteur ya mibeko ya lamu yo moko ote yo viole nde balwa odi sheri Amelia et Amada. Soki na zalaki officier, mele na tangisi yo. Juge ma paix à mon kiyo yo. Na zala confiance te koma ya kosoka. Connaissance na famille, maiko famite o. Na tiki na ngaye, membo limwe zanano. Na tiki na ngaye, membo limwe zanano. Makanisi elobi na boya me motema ezokoka te zongelanga ata butu
mokoo
asmak zelata tomweta na bongo yokende nazobanga butu bandoki banvute sentima na ngai lalisanga pongi ya suka bando twa suka tendrese a suka mwana suka liaka nde mingi alobi mwana suka liaka nde mingi avegle asalaka shwela mbate amona to kasi motemelula seyo namona mingi kasi moteme mpona nango seyo loboko
avesengasima motema asma
afungoli loboko ata mwa nguba eza te Freddy Eda Silva Sekera Eric Ndala Lego man maloba nanga moyibi ata nalobi verite bananai badongodongo ata misili ebungi ndenge nini nawanga na nzambe kakobela engami naliaka nanga mpe misili te mekasi ndenge nini nawanga na yuda ata bomoli motema loba bapasola bible po bandima ye nga nalingi nanga
Et nous revoilà pour cette deuxième partie d'émission. Donc nous sommes toujours en compagnie donc, de l'enfant Jésus. Et donc pour cette deuxième partie, nous allons aborder la question de la consommation, des addictions. On était un petit peu déjà dans ce sujet avec la thématique de l'argent. Et moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes consomment de plus en plus aujourd'hui ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Énormément. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être différencié d'avant ?
Avant, j'étais pas ici, mais je me dis que c'était plus les adultes qui avaient droit. Même quand je venais d'arriver en Belgique, une fois et tout, même pour acheter l'alcool, le monsieur, il demandait quel âge, il demandait une carte d'identité. Et j'ai l'impression qu'après, ils ont laissé aller. Et je vois des enfants de 13 ans, 12 ans, tout fini.
Ouais. Vous êtes à l'impression qu'en fait on demande même plus l'âge, etc. Vous êtes d'accord avec ça, les
oui,
autres
oui.
Ouais. Et vous avez l'impression qu'il y a une raison particulière peut-être à ça?
Non, mais moi je trouve que personnellement les jeunes d'aujourd'hui ils se font influencer très très vite. Et ben voilà. Et vu que maintenant pour acheter des cigarettes ou quoi ils demandent plus trop la carte d'identité et tout ça, et ben les jeunes d'aujourd'hui peuvent se permettre d'aller acheter un paquet de cigarettes plus jeune.
Mmh, ok. Et vous parlez des cigarettes, les vraies cigarettes ou les cigarettes électroniques, là, les puffs
Tout.
Ouais,
tout.
Drogue, tout ça.
Drogue,
ouais, c'est même la drogue.
Ouais. Vous voyez ça autour de vous, dans peut-être...
Ouais. Oui.
Petits frères, petites sœurs, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
pour la personne, si c'est une personne proche de nous, oui, ça nous inquiète. Mmh. Après, si c'est des gens dehors, on se dit que c'est pas très bien pour eux, mais vu que c'est pas des personnes proches de nous, c'est pas très... On s'inquiète pas trop, quoi. Mmh.
Bah après aussi, ça dépend de l'éducation, parce qu'il y a des parents qui le font avec leurs enfants. Désolée, mais en fait, moi, je trouve que les parents plus européens qu'africains, les parents africains, ils mettent des barrières. C'est-à-dire que c'est les enfants africains qui font ça, ils se font plus influencer par les amis de l'école et tout que des parents qui sont européens, qui fument avec leurs enfants. Voilà.
Tu trouves, oui, effectivement, qu'il y a une éducation qui est peut-être plus stricte, ouais, en fait, dans les familles non européennes que dans les familles européennes, quoi. Ok. Et vous avez ce sentiment-là aussi, les autres?
Oui.
Ouais. Ok. Est-ce que pour vous, la consommation, elle est toujours problématique aussi? Est-ce que vous pensez que le fait de consommer, c'est toujours problématique? Et quand je parle de consommer, ça peut être plein de trucs, hein. C'est pas que les stupes non plus. Le fait de consommer les écrans, est-ce que c'est toujours mauvais?
C'est mauvais pour le corps, enfin pour les yeux la plupart du temps, mais il y a des fois on a tellement rien à faire que en soi pour nous les écrans c'est pas très on s'inquiète pas trop.
Mmh. Mmh. Donc toi tu parlerais quand même de danger, on va dire, en termes de du corps, donc tu parles des yeux, oui. Et peut-être au niveau de la santé aussi mentale, vous y avez pensé aussi éventuellement? Tout ce qu'on parle, cyberharcèlement, le fait de se comparer à des choses qui sont peut-être pas forcément vraies, tout ça.
C'est vrai que ça monte très vite au cerveau. Mais c'est pas forcément mal. Enfin, moi, je dirais que c'est pas forcément mal. Après, ça dépend des gens.
Mm-hmm.
Parce qu'il y en a, ils sont plus sur les écrans, il y en a, ils sont moins sur les écrans. Ça dépend de toute personne.
Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre camarade dit, Salma?
Ah oui. Mais je pense que ça dépend aussi sur l'éducation. Parce qu'il y a des enfants, déjà à 1 an, 2 ans, ils sont déjà accros aux écrans. Et du coup, quand ils commencent à grandir, bah, tu vas leur prendre les écrans, ils vont taper une crise.
Mmh.
Et il y en a, imaginons, de un peu plus de notre âge. Par exemple, quand on était petit, on n'était pas directement sur les écrans. Du coup, maintenant, je pense que bah, on sait plus facilement se séparer d'un écran que les plus petits d'aujourd'hui.
Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on met des petits comme ça devant les écrans, vous pensez?
Bah, pour aller à leur occupation, parce que c'est la seule chose qui va le retenir tranquille. Parce qu'un enfant, maintenant, tu le mets sur des jeux, il va plus se lasser que devant un écran. Par exemple, moi, ma nièce, elle peut faire 3 heures devant un écran, alors que... Si tu le mets devant ses jeux, elle va faire 30 minutes et après, elle va te déranger. Donc,
Donc c'est plus... en fait, c'est pour occuper l'enfant, en fait, finalement. Ouais. Okay. Et vous, les autres, vous partagez cet avis?
Moi, je suis d'accord parce que c'est à peu près la même chose avec ma sœur.
Mm-hmm.
Elle a 4 ans et c'est la même chose. Elle prend 30 minutes les jeux. Après, elle a une façon de dire dessin animé. Elle dit forcément Baby Shark parce que c'est la première fois qu'elle a regardé ça. Donc ça veut dire que quand elle joue à ces jeux, directement elle est obligée de regarder le téléphone en même temps. Ça veut dire qu'elle crie Baby Shark, Baby Shark. On est obligé de le ramener carrément. On a un ancien téléphone. On dit clairement que c'est le téléphone à notre sœur.
Mmh.
C'est tellement addict qu'on dit il est où le téléphone là, voilà. Voilà, c'est très addict pour les enfants.
Ouais. Et vous pensez qu'il n'y a pas de retour en arrière possible?
Alors, à ce stade, non, parce que...
Tu crois pas?
Parce que dès que tu donnes pas, elle commence à pleurer, donc bon.
Et vous qui observez ça, vous trouvez que c'est une bonne chose, justement, que les petits soient déjà aussi vite addicts aux écrans? Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme conséquence pour eux plus tard
Bah, ça va être très très mal, parce que si à cet âge-là ils sont addicts, alors faut pas imaginer dans 10 ans plus tard, quand ils vont sortir des téléphones, on va même pas savoir à quoi ils vont ressembler, ils vont devenir plus addicts qu'autre chose, ils vont être H24 dans leur chambre avec leur téléphone, ils sortent téléphone, avec leurs parents téléphone, ils vont être tout le temps collés à ça.
Mm-hmm.
Par exemple, vous allez enlever leur téléphone, la mère à l'enfant, ils vont lui dire « t'es puni, t'es trop sur ton téléphone », ils vont taper une crise, ils vont s'enfermer dans la chambre. Ouais, c'est très très mal.
ce que tu disais, juste pour rebondir, tu disais justement, c'est un peu, tu disais c'est la seule manière de les calmer. C'est ce que tu disais. Hein.
Oui, en fait, comment dire, après, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal pour des enfants parce que, par exemple, si on est 4 enfants, donc 3 adultes et plus la petite, tout le monde sera sur le téléphone sur TikTok. Elle va vouloir jouer avec tout le monde, mais tout le monde dit recule, recule et tout. Parce qu'il est concentré sur son téléphone, donc quoi à faire, mettre de la télé, et comme ça tout le monde est occupé. Et voilà quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est pas justement parce qu'elle vous voit tous sur vos téléphones qu'elle a elle aussi envie d'être sur son téléphone? Est-ce que si tu proposais autre chose, je sais pas, est-ce que, parce que toi par exemple, parce que tu as grandi, comme vous dites, il y a une différence maintenant les petits et vous, est-ce que toi tu as grandi aussi avec le téléphone, on mettait tout le temps l'écran devant la télévision?
Non.
Ouais. Et est-ce que c'est pas en proposant d'autres activités qu'elle peut aussi, les enfants peuvent s'habituer aussi à voir et à faire d'autres choses?
Moi, ça dépend. Ça dépend. Des fois, on lui propose de sortir au parc, elle va dire oui. Mais une fois qu'on est au parc, une heure après, on va dire, elle veut rentrer, elle fait « je veux le téléphone, je veux le téléphone ». Ça veut dire, même lui proposer des activités, ça ne servira à rien.
Et vous, enfin, est-ce que vous êtes déjà là posé la question de ce que vous allez faire avec vos enfants, justement, par rapport à cette question-là, plus tard?
Moi, je me suis jamais posé la question, mais maintenant que je réfléchis, je vais pas forcément interdire le téléphone, mais il y aura une certaine heure où il devra arrêter. Il y aura un certain temps, par exemple, je dirais dans la journée max 1h30 sur le téléphone, comme ça le reste de la journée il joue avec nous, il va pas trop s'habituer. Ce sera une occupation, mais ce sera pas l'occupation qui va l'occuper tout le temps.
Et vous pensez que c'est un bon âge, enfin, c'est quoi le bon âge pour commencer justement à utiliser les écrans éventuellement?
2-3 ans. Oui.
Ah, quand même, hein.
Mais oui.
Mais genre pour, en termes d'occupation, quoi, comme on en parle avant. Enfin, comme on en parle maintenant, pardon. Oui. Ok. Et vous, Marco, Daniel, c'est quoi pour vous?
12 ans.
12 ans. Ouais. Et à 12 ans, tu l'autoriserais à aller sur les réseaux sociaux et tout ça?
Oui.
Ouais. T'aurais pas peur de ce que ça pourrait produire chez lui?
Non, mais il y a des limites aussi, hein, je veux dire. On peut jouer au jeu, mais aller sur TikTok, mais pas dire parler à des gens inconnus.
En fait, moi, je dis 2 ou 3 ans pour regarder la télé.
Ok.
La télé étant petit, mais peut-être les week-ends, quand il va de l'école, il ne regarde pas en semaine, mais le week-end. Maintenant, s'il grandit, comme Marco l'a dit, à 12 ans, mais en fait, moi, je serais assez ouverte avec mes enfants parce que je me dis que à vouloir tout interdire à un enfant, enfin, après. À vouloir découvrir de lui-même, c'est encore pire. Je pourrais donner un téléphone et il aura accès au réseau et tout. Je pourrais même parler de la sexualité avec mon enfant plus petit, comme ça. Après, elle ne va pas dire ma mère m'a interdit. Elle voit ses amis qui parlent de ça et après, ça sera encore plus pire.
Merci.
Moi, je suis d'accord par rapport à. Je serai ouverte par rapport à mon enfant. Mais pas pour l'âge, pour le téléphone. C'est, moi, je vais, par exemple, lui dire... je vais lui donner un téléphone à 7-8 ans. 7-8 ans, il aura droit au jeu comme nous, on a eu à l'époque. Et à partir d'un certain âge, je vais lui faire, oui, tu peux ce réseau-là. Tu peux ce réseau-là. Mais tu parles pas à ça, tu parles pas à ci, tu parles pas... Voilà. Mais il y aura des barrières.
Des limites, quoi. Bah, un peu dans ce que disait Marco aussi, c'est faire ça dans les limites, ouais.
7-8 ans, c'est un peu trop tôt. Genre, donner une tablette à 7-8 ans, oui, mais un téléphone. Parce qu'une tablette, tu peux installer des applications sans que. Enfin, il y ait un compte dessus, alors qu'un téléphone, il peut se créer un compte et télécharger l'application en cachette.
C'est vrai, mais en fait, j'aurais la vue sur le téléphone, c'est-à-dire, j'aurais son mot de passe de téléphone, je vais sûrement lui mettre un temps d'écran. Je vais vraiment lui autoriser que les jeux, à partir, comme a dit Marco, de 12 ans, je vais commencer à lui donner les réseaux. Mais je vais lui mettre des limites.
Parce qu'on a beaucoup parlé de la consommation des écrans, mais tantôt, Joe, je t'ai parlé aussi du fait que les jeunes consomment beaucoup aussi de cigarettes, les cigarettes électroniques. Est-ce que vous avez l'impression que la consommation de stupéfiants, cigarettes, tabac, elle est banalisée chez les jeunes aujourd'hui? Tu parlais aussi d'alcool même?
Oui, parce que en fait, moi je me disais, avant d'arriver en Belgique, moi je me disais que en fait quand je regarde de où j'étais et l'école en Belgique, je me dis que l'école là-bas elle est meilleure dans l'éducation, parce que l'école c'est pas seulement apprendre. Par exemple, ici, les éducateurs et les profs ils fument avec les élèves à la pause. Du coup, moi, un peu, ça me choque et tout. Je me dis, un prof, il ne peut pas sortir de l'école, il voit des élèves en train de fumer, il passe, genre, c'est pas possible. Et je me dis que même à l'école, c'est un peu banalisé ce sujet-là et tout. Mm-hmm.
Et voilà. Et pour revenir un peu à vous aussi, parce qu'on a parlé beaucoup des enfants, est-ce que vous avez l'impression que l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux, ça a un impact sur votre vie sociale, ça a un impact sur votre vie scolaire aussi ?
Oui.
Ouais. Oui.
Oui.
Ouais.
Oui.
Alors comment ?
Bah, c'est juste qu'avec les réseaux, déjà on a plus de facilité à se faire des amis. Mmh. On peut avoir des amis des réseaux sans forcément les voir dans la vraie vie. On n'est pas forcément accro au téléphone, aux écrans, mais quand quelqu'un va nous enlever notre téléphone, c'est... on va pas avoir le seum. Genre, y a comme toute notre intimité dedans. C'est notre téléphone, il y a notre vie dedans. Donc ça veut dire que si quelqu'un nous l'enlève, on va pas être très content, quoi.
Mais est-ce que vous pensez que vous avez toujours besoin de votre téléphone dans vos activités quotidiennes ?
Ouais.
Ouais ?
Oui.
Vous faites tout avec votre téléphone ?
Non, ça dépend.
Ça dépend ?
C'est... Des fois, on a juste besoin de téléphone si nos parents veulent nous contacter ou quoi, mais pas forcément des réseaux et tout.
Et vous direz que vous avez plus ou moins, vous passez combien d'heures par jour sur votre téléphone ? Vous savez un petit peu ?
Ma moyenne, moi, c'est 15 heures.
15 heures sur une journée de 12 heures. Combien ?
17.
17 encore sur... Vous dormez pas ?
Moi, je dirais entre 10h et 15h.
Ouais, quand même. Ok, bah, vous avez énormément de... Ouais.
Et... Moi, je sais pas, parce que je suis plus sur la play, moi, et tout.
T'es moins sur ton téléphone et réseau. Et toi, Daniel, tu sais dire un petit peu ?
Moi, 10h.
10h, c'est bon. Vous avez plus ou moins tous une même utilisation, en vrai. Hein, donc, Mais qu'est-ce que vous faites, en fait, sur votre téléphone ? Vous dites vous parlez avec vos potes, vous interagissez avec des gens, mais est-ce que vous ne pouvez pas le faire aussi en live, dans la vraie vie ? Pourquoi est-ce que ça doit passer par vos téléphones ?
Ça dépend si la personne, elle est sociable. Si la personne, elle n'est pas sociable, elle ne voudra pas forcément aller parler à des gens comme elle parle sur les réseaux. Et il y en a, c'est la timidité aussi. Et après, on parle pas forcément à des gens sur les réseaux. Tu peux rester sur une application pendant des heures, mais parler à personne, juste pour t'occuper.
Bon, on va terminer. J'avais encore envie de vous poser une question. Mais enfin, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Salma, quand même, par rapport au fait que ça peut faciliter la communication pour certaines personnes qui en ont peut-être besoin. Donc, je pense qu'effectivement, moi, je suis pas non plus à dire que les réseaux, ça, il y a tout à acheter. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi conscientiser sa manière de les utiliser. Est-ce que vous, avant de terminer, pour faire une deuxième pause, est-ce que vous auriez envie peut-être de changer votre manière d'utiliser les réseaux, ou est-ce que vous êtes d'accord, enfin ok avec la manière dont vous le faites actuellement ?
Moi, je suis pas très ok, parce que je sens quand même que c'est une addiction un peu. J'aimerais aussi changer, plus trop être sur mon téléphone, profiter avec ma famille. Mais le téléphone, c'est tellement addict que des fois, tu as juste envie de parler à personne, de rester sur ton téléphone.
Moi, ça a un peu mitigé parce que quand, par exemple, je ne travaille pas, je suis tout le temps sur mon téléphone, vraiment tout le temps. Alors que quand, par exemple, je vais au travail, bah, ça peut m'arriver. Même quand je rentre, j'ai la flemme d'être sur mon téléphone. Donc, ça dépend.
Les autres, un dernier mot avant qu'on fasse une pause ?
À tout à l'heure.
Merci Salma. Du coup, on va lancer PNL. Hasta la vista. À tout de suite.
Je commence avec des pompes sur les poings, sur les plans enculés. Du chanteur, je crois que manque plus que la vue sur la mer enculée. J'hésite entre un verre de Jack ou bien un coca fraise. Ego, c'est misère, t'es aide, non pas pourquoi on t'agresse. Brrr. Moitié Forza, moitié Tahia. Explosif depuis la naissance, 9-1-100, ouais, paria. Paria, déterminé, tiens la tour comme Dende. Une, deux, banalisé, puis t'entends les vannes. Arriba, enda, mode survie dans le bando. Mate, banco, sa pipi, mais c'est pas Kalima. À travers mes LV, je me sens si bien. Je me souviens quand j'étais rien, quand je survolais les terriens. Le titan, billet de 500, j'attends, toi tu peux me détester. J'ai mis que pour mieux m'engraisser. C'est pas pareil que tu pourrais tester. Depuis quand
Tu végètes à mon gris, t'es tout petit, trop énervé. Tu pifous bien ce puis tout si je donne la RV. Ça pétarde comme escroc, devant je suis l'escroc. Dans la tête y'a l'escroc, dans la tête y'a Rico. Dans le four y'a AD, open la boîte aux lettres. Pas loin des comico, Batman vous me connaît.
Je suis dans mon monde, je m'avoue et j'ai ma petite nax. Mon playback sur un tas d'Iran. Je suis ravie que ma haine vous plaît. Ravie qu'on vous plaît.
Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra. La pauvreté nous manque pas. C'est le moment peut-être. Encore un ou deux bons marais. Allez un peu d'air. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. On verra.
J'suis resté en bas plus tard pour faire plus de moula. La chaise est restée au fond du rôle, moi j'suis plus là. J'regarde le ciel, le soleil caresse mon âme. Grandi dans le peine, on la haisse en basse ton crâne. Ni frais.
De retour pour cette troisième partie de l'émission. On a déjà parlé de la consommation, du rapport qu'on a à l'argent. Et maintenant, on va embrayer sur la question de la famille et de l'école. Et une première question que j'aimerais vous poser, c'est quel rôle joue la famille pour vous dans votre quotidien? Ou en tout cas, quel rôle vous aimeriez que la famille joue pour vous dans votre quotidien?
Pour moi, la famille, personnellement, c'est vraiment important. Parce que depuis que je suis petite, ils ont la famille du côté de ma maman ou de mon papa. On est toujours là les uns pour les autres. Là, par exemple, mes parents, ils sont plus ensemble. Mais mon papa prend quand même des nouvelles de la famille de ma maman. Et la famille de ma maman prend encore des nouvelles de la famille de mon papa. Donc...
Mm-hmm. Toi, tu mets vraiment le soutien beaucoup derrière. Et pour les autres.
Moi aussi, je suis d'accord. À part que mes parents ne sont pas séparés. Mais il y a aussi sur le fait que la famille, elle a un rôle important, mais que pour la partie de ma mère. Parce que déjà, la famille de mon père, ils habitent au Maroc. Mmh. Et en plus de ça, c'est pas l'amour ouf entre les deux familles. Du coup, c'est plus ce côté de ma maman qui est important.
Mmh. Ok.
C'est la famille qui va nous éduquer. Elle va nous apprendre, fais ça, fais pas ça. Mmh. Et la famille, c'est sacré. Parce que quand on sera plus vieux, ils seront plus là. Et là, on va se dire, on aurait dû rester plus longtemps avec eux. Et j'ai pas profité, voilà.
Ouais. Ok. Et l'école, quel rôle elle joue l'école pour vous?
Ça a une place importante, mais surtout pour la famille. Parce que pour eux, c'est si tu as une mauvaise note, t'as ça, t'es puni de ça. Si t'as une bonne note, ils te félicitent, ils t'offrent des cadeaux. Donc ouais, l'école pour eux, c'est une place importante, mais pour nous, c'est pas une place hyper importante. Enfin, pour nous, c'est pas le truc qui va nous amener hyper loin, enfin, qui va encore nous faire gagner de l'argent.
Mmh. Tu dis pour nous, Selma, je me permets de reprendre. Pour nous.
En tout cas pour moi.
Pour toi. Et pour les autres, du coup.
Moi, je suis d'accord.
Toi, tu es d'accord aussi? Oui.
Moi aussi.
Oui. Donc l'école, c'est vraiment, vous y allez uniquement parce que vos parents vous disent que vous devez y aller, que c'est important.
Oui. Parce que c'est obligatoire en Belgique, quoi.
Oui, c'est ça, surtout parce que c'est obligatoire. Moi, personnellement, si c'était pas obligatoire d'aller à l'école, j'irais pas. Parce qu'en fait... Ça m'énerve.
Ouais.
Ensuite, t'es en cours, t'as des cours. Peut-être que les cours sont bien, mais les profs sont pas comme on pense, donc ça rend le cours ennuyant. La journée, elle est longue. Enfin, ouais, du coup, quand le matin, tu dois te réveiller tôt, t'es super fatigué. Tu rentres d'une journée de cours, t'es super fatigué. Mm-hmm. Enfin, moi, vraiment, l'école, ça me fatigue.
Je trouve que c'est beaucoup répétitif, en fait. C'est toujours les mêmes journées, du coup, ça fatigue. Et voir, par exemple, les mêmes personnes, les mêmes profs tout le temps, ça me donne le tournant, quoi.
Ça te donne le tournis, tu dis. Après, je peux entendre effectivement que, allez, si on est dans une classe où il n'y a pas une chouette ambiance, où on est avec des profs avec qui ça se passe pas bien, ça peut être embêtant de venir à l'école, mais en dehors de ça, vous n'avez pas l'impression que l'école quand même vous apprend des choses, qu'elle vous transmet peut-être aussi parfois des valeurs qui vous seront utiles pour plus tard ?
Moi, je trouve que, à part la culture générale, ça me sert à rien. Mais ouais, moi, j'y vais juste parce que c'est obligatoire et surtout pour voir mes copines. Parce que la plupart du temps, on connaît les copines qu'à partir de l'école. On ne les connaît pas en dehors. Du coup,
ouais,
c'est bien.
Ouais. Parce que là, vous êtes en quelle option, vous, ici, pour le moment ?
Animation sociale.
Animation sociale. Et vous n'avez pas l'impression d'acquérir des compétences en étant dans votre cours d'option, des choses que vous pourrez vous approprier et reproduire plus tard, éventuellement ?
Pas trop.
Pas trop ?
Non.
Non ?
J'ai rien appris depuis que je suis là.
Ok. Et du coup, vous diriez que votre famille, elle a quel impact sur votre parcours scolaire ? Dans votre quotidien ? Est-ce que c'est un moteur quand même pour vous, pour aller à l'école ?
Un peu quand même. Parce que c'est eux qui nous... Pas qui nous forcent, mais qui nous disent d'y aller à l'école. Mm-hmm. Donc c'est un peu eux qui... Ils ont un grand impact sur notre parcours scolaire.
Ok. Et qu'est-ce qui fait alors que vous vous sentez bien en allant à l'école ? En dehors des... J'ai entendu les amis. Oui. C'est tout, ce serait tout ? Les amis, ce serait la seule raison, ce serait la seule chose qui ferait que vous vous sentez bien à l'école ?
Oui.
Oui ?
Après, c'est pas tout le monde qui va à l'école pour des amis. Hein. Encore une fois, pour moi, l'école, tu vois, parce que t'es obligé, pas forcément pour des amis, parce que... Par exemple, l'année passée, j'étais dans une classe où j'aimais vraiment personne. Personne, je parlais vraiment à personne, mais je venais quand même.
Oui.
Et je trouve que quand... après aussi, les amis, ils ont un impact. Parce que quand tu te retrouves devant personne, après, avec personne, genre, t'as vraiment personne, même pour faire des groupes et tout, t'es toujours derrière personne. Ça fait que ça peut jouer un impact sur ton année. Et du coup, voilà quoi.
Oui.
Moi, personnellement, l'année passée, j'avais une classe où on était vraiment tous amis, on s'entendait tous super bien. Du coup, le matin, quand je me réveillais, ça ne me dérangeait pas d'aller à l'école vu que je savais qu'on allait bien rigoler et tout ça. Tandis que là, cette année, bah, dans la classe, on a un peu tous des groupes. Du coup, bah, ça donne moins envie d'aller à l'école. Mais le matin, quand je me réveille, je n'ai pas forcément envie d'aller. Mais je sais que je vais voir mes copines dans ma classe, qu'on va rigoler la journée, tout ça. Donc, ça me donne un peu plus envie d'y aller.
Ok. Du coup, vous voudriez tous avoir une bonne ambiance de classe, c'est hyper important, en fait, dans votre quotidien à l'école.
Oui.
Oui ?
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qui favorise ? Qu'est-ce qui permet d'avoir une bonne ambiance de classe, justement, d'après vous ?
La sociabilité. Que chacun va vers chez les autres. Et ça dépend aussi du prof, comment il donne son cours. Ça dépend, il y a des profs qui disent « Oui, allez, on se met tous ensemble par groupe, on va tous rigoler ensemble et tout. » Alors qu'il y a des profs, ils mettent chacun à notre table, déjà qu'on n'a pas envie de travailler. Si en plus on est séparés de nos copines parce qu'on ne choisit pas nos places, c'est un peu embêtant.
Du coup, vous diriez que l'ambiance de classe, elle repose sur qui ? Les élèves ? Les professeurs ?
Les professeurs et les élèves.
Les deux, ouais. Et dans votre dynamique, dans votre classe, à vous, vous avez l'impression qu'il y a une bonne dynamique dans votre classe actuellement ? Comment vous ressentez-vous dans la dynamique actuelle de votre classe ?
Elle n'est pas ouf, hein, on va dire.
Elle n'est pas ouf ? Ouais. À quel niveau ?
En fait, au début, moi, je me disais que ça allait. Mais en fait, à force de connaître tout le monde, tu sens que, en fait, désolé, mais il y a beaucoup d'hypocrisie envers les uns et les autres. Et c'est un peu malsain. Du coup...
Qu'est-ce qui pourrait permettre de changer cette dynamique selon vous ? Si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous proposeriez ?
Bah, quand il y a des personnes vicieuses ou vicieuses, on ne peut pas forcément les changer. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est rester dans notre coin sans parler forcément à ces personnes vicieuses et rester avec notre groupe de copines qui est très bien.
Mm-hmm. Mais est-ce que vous avez facile à communiquer avec les autres quand il y a des tensions, quand vous sentez qu'il y a des frictions, qu'il y a des choses où vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a un souci, une dispute avec quelqu'un éventuellement? Est-ce que vous avez une tendance, vous, à aller communiquer, à aller parler, voir la personne pour régler les choses? Ou vous êtes plutôt, comme tu dis, d'aller dans son coin et
Non, moi, je suis des deux avis. Des fois, je reste dans mon coin, après, je vais des fois voir les personnes. Mais après, c'est pas forcément parce que je viens qu'ils vont forcément m'écouter. Mmh. Donc après, quand je me dis qu'ils vont pas forcément m'écouter, je me dis, bah, autant rester dans mon coin, qu'ils font leur dispute à deux, et moi, je reste dans mon coin, quoi.
Ok. Et est-ce que vous ressentez, de manière générale, une pression par rapport à l'école?
Oui.
Oui? Et vous direz qu'elle se situe à quel niveau, cette pression?
On va dire 7. 7 sur 10.
7 sur 10?
Ouais, 7 sur 10.
Et ce serait lié à quoi?
Les évals.
Ouais, les évaluations, notes. Les notes, oui.
Bah, ça fait que, en fait, la note qu'on va me donner, je commence à me juger. Je me dis pourquoi les gens, les autres, ils comprennent, moi, je ne comprends pas. Alors que c'est pas forcément, on n'est pas obligé forcément de comprendre, vu qu'on vient pour apprendre des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Du coup, voilà quoi.
Ah ouais, donc tu dis en fait que les notes, ça donne aussi un sentiment de mal-être. On a l'impression qu'on est moins intelligent que les autres, entre guillemets.
Ouais.
Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez facile, vous, à solliciter vos professeurs quand justement vous avez des difficultés à comprendre? Est-ce que vous avez peur de le faire parfois?
Ça dépend avec les professeurs. Des professeurs qui sont plus compréhensifs que d'autres.
Mm-hmm.
Et quand tu vois, quand tu es avec un cours que tu ne comprends pas, qui est en plus avec le prof qui est moins compréhensif, tu te retrouves devant l'évaluation, tu ne comprends rien, tu as ta note, tu vas dire, tu vas te sentir bête, tu vas te sentir mal mentalement. Tu vas croire que tous les autres sont plus intelligents que toi. Il y a des gens, des fois, ils vont sûrement te rabaisser. Eux, ce sera sûrement pour rigoler. Toi, tu vas le prendre mal.
Mmh.
Après, il y a la famille aussi qui joue. Quand tu vas ramener une mauvaise note, ils vont te juger. Ils vont faire, oui, pourquoi t'as pas révisé? Pourquoi lui, là, il a eu plus que toi et pas toi? Alors que toi, tout ça, t'as juste pas compris l'exercice.
Oui. Ouais. Mais après, est-ce que vous reconnaissez tous qu'on a des intelligences différentes, quoi?
Oui.
C'est ça.
Mais il n'y a pas forcément tout le monde qui le comprend.
Exactement. Et que c'est pas parce qu'on a des choses qu'on capte moins, qu'on est moins intelligent ou que l'autre est plus intelligent.
Ils ont juste plus de facilité, quoi.
Ouais, surtout qu'on a des cerveaux différents.
Surtout qu'il y en a qui ont des problèmes spécifiques, comme dyscalculique, TDAH. Par exemple, moi, je l'ai. Donc, j'ai plus de mal à me concentrer, plus de mal à réviser. Par exemple, je peux rester dans ma chambre fermée. Je vais quand même trouver le seul truc qui peut me déconcentrer pour pouvoir ne pas réviser. Mmh. Et ça, c'est compliqué.
Ouais. Et vous avez des fois le sentiment que les exigences de vos parents, les attentes de vos parents ne sont pas en adéquation avec ce que vous pouvez vous faire et ce que vous avez envie de faire par rapport à l'école? Est-ce que la pression, elle vient aussi parfois de la famille par rapport à l'école, par rapport aux résultats, par rapport aux notes?
Sûr que si tu ramènes une mauvaise note, tes parents ne seront pas super fiers de toi et ils te... Tu t'aurais dit oui, je suis un peu déçue de toi, tu aurais pu faire mieux. Enfin, même quand, par exemple, tu révises, allez, une ou deux heures pour une évaluation et que tu te ramènes avec un 2 sur 20, c'est sûr que c'est décevant.
Mmh. Et tu as le sentiment que quand tu expliques, tu as des difficultés, quand même, ils arrivent à le comprendre et à diminuer un peu la pression.
Oui, parce que moi, je suis dyslexique, dyscalculique et dysorthographique. Et du coup, c'est sûr que j'ai plus de mal pour les évals et tout ça. Donc, mes parents sont plus compréhensifs par rapport aux notes.
Mmh. Et pour les autres?
Mon père, il sait que moi, je suis... parce que c'est plus mon père qui s'intéresse à l'école. Sinon, ma mère, en soi, elle veut pas savoir et tout.
Mmh.
Du coup, j'aurais dit... Mon père, il sait que moi, de manière générale, je suis pas concentrée. Même dans ce que je fais à la maison, il sait que j'ai ce problème de concentration. Et comme il sait aussi que, en fait, moi, tant que je n'ai pas compris un truc, il sait que je ne vais pas vouloir comprendre. Du coup, ça fait qu'avant, il était plus exigeant et tout. Mais maintenant, il comprend. Genre, j'ai une mauvaise note, il s'est dit, c'est pas grave, prochainement et tout. Par exemple, moi, mon père, il a mon bulletin là maintenant. Il voit 3-4 matières échouées, il va me dire ouais, continue comme ça et tout. Il essaye plutôt de me remonter le moral qu'il y a 2 ans quand il me disait que non, non, pourquoi les autres ils ne réussissent pas toi et tout. Donc.
Ah, ouais, c'est chouette. Donc il t'encourage, il te soutient plutôt que de te mettre une pression quoi.
Oui.
En plus.
Moi, en soi, c'est plus ma mère qui se préoccupe avec mes notes. Mais elle me dit du moment que tu as même la moitié, pour moi c'est bon. Elle veut pas que. En fait, pour elle, je sais pas comment expliquer.
si j'ai la moitié, c'est déjà bon.
Oui.
Et du coup, on va dire, en termes du bulletin, si elle voit, par exemple, que j'ai une mauvaise note, mais elle sait que j'ai étudié, elle sera pas contente, mais elle sera pas vraiment déçue parce qu'elle sait que j'ai étudié.
Mm-hmm.
Après, si, par exemple, j'ai des mauvaises notes, mais elle voit que j'ai pas étudié, je sais qu'elle sera fâchée.
Ouais. Et ça t'aide, le fait que tu vois, je ne mets pas autant de pression par rapport à tes notes, quoi.
Et par exemple, moi, en termes d'école, c'est pas vraiment facile, parce que moi, par exemple, j'ai trouble d'apprentissage, et moi, j'ai la vérité, moi, j'ai raté beaucoup d'années, et pendant un certain temps, j'avais pas envie de venir à l'école.
Mm-hmm.
Mais je me dis, si j'arrêtais l'école, ma mère va me dire, ouais, continue, parce que c'est bien pour toi, tu vas mieux apprendre. Mais ouais. Bon, après, si je vois, je vais à l'école, j'apprends rien, je suis là, je fais rien, bah, autant arrêter.
Mm-hmm.
Et voilà.
Ok. Mais ce qui est bien, j'entends ici, en tout cas, que parmi, en tout cas, dans le groupe qu'on a ici, il y en a pas mal qui ont des difficultés d'apprentissage un peu plus que les autres. Et justement, parce que vous vouliez parler un peu des aménagements raisonnables, dans l'idée que parfois, on a le sentiment qu'il y a certains jeunes qui ont l'impression que certains sont privilégiés par rapport à d'autres. Est-ce que vous, vous avez le sentiment, des fois, que certains élèves voient, comment dire, les dispositifs que vous avez comme des injustices par rapport à eux ?
Bah, y en a beaucoup qui trouvent que c'est une injustice, mais moi, je trouve pas, parce que ils ne se rendent pas compte que s'ils se mettent à notre place, ils vont avoir des difficultés impossibles. Par exemple, eux, ils vont faire un exercice, ils vont devoir le réviser, ceux qui n'ont aucun problème. Hein.
Mm-hmm.
Ils vont vouloir réviser, allez, une page, en une heure, ils ont tout compris, alors que nous, une page, ça peut prendre 2-3 heures à comprendre. Ceux qui sont dyscalculiques, dysorthographiques, juste pour l'orthographe, un an à comprendre.
Mm-hmm.
Ceux qui ont TDAH, un an à se concentrer, ça peut prendre je sais pas combien de temps.
Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez l'impression vous avez l'impression qu'ils comprennent toujours justement ces difficultés que vous avez, les autres élèves?
Bah personnellement non, je pense pas, mais il y en a, c'est sûr que quand tu vois que t'as plus de temps pour faire tes examens, que t'as plus de temps pour ton évaluation et tout ça, c'est sûr que ils doivent être dégoûtés, ils doivent se demander pourquoi, mais ouais, on sait rien y faire, quoi. Mmh.
Est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser alors aussi les autres jeunes par rapport à toutes ces problématiques-là, pour qu'ils puissent comprendre aussi? Et que ça vous aide à ne pas être, enfin, je dis vous, ceux qui ont des troubles d'apprentissage, à ne pas être stigmatisés par les autres élèves?
Ouais, je pense.
Mm-hmm. Bah, moi, je pense aussi, mais je trouve que ça servirait un peu à rien, parce que dans tous les cas, eux, dans leur tête, ça va être, ils sont privilégiés, ils ont plus de temps, ils ont plus ça. Alors que faire montrer une vidéo, sensibiliser quelque chose, enfin sensibiliser ça pour eux, ça ne servira à rien. Pour eux, ça va rester ça en tête.
Tu crois ? Est-ce qu'il y a déjà eu des sensibilisations ? Peut-être c'est peut-être une question plus peut-être pour votre professeur. Est-ce qu'il y a des explications qui sont données comme ça en début d'année sur les aménagements raisonnables, sur les difficultés d'apprentissage qu'il peut y avoir entre les élèves ?
En fait, ce qu'on remarque en général auprès de nos élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, il y en a certains qui aimeraient partager avec les autres, mais il y en a d'autres qui préfèrent garder ça pour eux et qui ont peur d'être stigmatisés, justement. Mmh. Donc, il y a toujours une approche avec la coordinatrice de l'école pour un petit peu voir comment on explique ça en classe et ce qu'on met en place. Mais en général, on a quand même des élèves qui sont réticents et qui préfèrent discrets, qu'on ne le sache pas spécialement.
Mmh.
Mais maintenant, j'entends, c'est vrai qu'une sensibilisation, ça pourrait être quelque chose qu'on mettrait en place, mais voilà, une année n'est pas l'autre, une classe n'est pas l'autre. Et c'est vrai que dans leur classe, il y en a pas mal qui ont des troubles de l'apprentissage.
Mm-hmm.
Mais voilà, c'est intéressant pour moi d'entendre aussi ce retour, parce que voilà, je suis à la fois interpellée et en même temps contente qu'ils puissent s'exprimer sur ce sujet.
Oui, oui. Mais on peut comprendre effectivement qu'on n'est pas toujours envie, enfin, tout le monde n'a pas toujours envie que tout le monde soit au courant, entre guillemets, de ses difficultés. Et de ce qui relève un peu parfois de la vie intime aussi, en fait, et privée. Mais peut-être qu'une sensibilisation générale, juste de parler de manière générale, de qu'est-ce que c'est les difficultés d'apprentissage et pourquoi dans certaines écoles, des fois, il y a des aménagements qui sont mis en place. Peut-être que ça pourrait permettre aux autres de comprendre que ce n'est pas un privilège, mais que c'est en fait remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Bon, eh bien, on va se laisser et on va lancer Hamza, Miss Lilies. On se retrouve juste après.
J'ai vu les plus beaux océans, mais c'est dans tes yeux que je préfère nager. J'suis loki, j'ai du mal à m'attacher. Les yeux brillent comme mes chaînes et mes bracelets. Charlie, laisse-moi toucher ton body.
Dans mes rêves, je te vois dans une robe blanche devenir ma fiancée. Dans le club, j'ai du mal à m'ambiancer. Bébé, sans toi, j'ai du mal à m'ambiancer. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines, magazines. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines.
J'suis love de ma side, bitch. Damer la gasoline. Ramène à boire, chérie. J'suis pas rabat, tu l'aides. Elle veut les quartiers et le sac, Céline, le sac Kelly. Charlie, j'suis pas timide. J'la bouffe comme un sashimi. Charlie vient d'Angola. Wikidi Bombo Club. Bombo Club. Donne-moi le tsunami. Donne-moi ton punani. Donne-moi ton punani.
J'ai vu les plus beaux océans, mais c'est dans tes yeux que je préfère nager. J'suis Loki, j'ai du mal à m'attacher. Les yeux brillent comme mes chaînes et mes bracelets. Charlie, laisse-moi toucher ton body. Dans mes rêves, je te vois dans une robe blanche devenir ma fiancée. Dans le club, j'ai du mal à m'ambiancer. Bébé, sans toi, j'ai du mal à m'ambiancer. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines, magazines. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines, magazines.
J'descends de la battement B. Moi, je suis Sagittaire, c'est quoi ton signe? Vitesse, je le prends de vitesse. DJ, upon the replay.
Upon the replay, upon the replay. Swipe ma carte tous les jours, c'est ton bidet. Il me faut une bad girl pour tout le week-end. Elle veut un Batman. J'ai vu les bibous océans, mais c'est dans tes yeux que je préfère nager. J'suis Loki, j'ai du mal à m'attacher. Les yeux brillent comme une chaîne et mes bracelets. Charlie, laisse-moi toucher ton body. Dans mes rêves, je te vois dans une robe blanche devenir ma fiancée. Dans le club, j'ai du mal à m'ambiancer. Bébé, sans toi, j'ai du mal à m'ambiancer. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines, magazines. One thing for sure, c'est que t'es une bad thing. La chope est tellement grosse, il me faut de place de parking. Tu pourrais faire les covers des magazines, magazines.
Et nous revoilà pour cette dernière partie d'émission. Alors, juste avant la pause, nous abordions la thématique de la pression familiale et scolaire. Vous avez parlé beaucoup, justement, de vos amis durant cette partie. Et donc, voilà, on va relancer sur la thématique un peu plus de la vie relationnelle affective. Et pour lancer comme première question, je voulais vous savoir pour vous si c'était important d'entretenir des relations sociales dans votre quotidien.
Ça dépend. Si t'aimes bien rester seul dans ton coin,
ouais.
Ou t'as pas forcément envie de discuter ou quoi. Alors que si t'aimes bien discuter, oui, tu vas vers les gens tranquille.
Pour les autres.
Bah moi personnellement, c'est sûr que j'ai des amis et tout ça, mais je préfère rester seul dans mon coin, à écouter ma musique, tout ça, et que je suis moins à l'aise à aller vers les gens. Je préfère quand c'est eux qui viennent vers moi.
Ok. Les autres.
Moi aussi.
Ouais. Et est-ce que du coup, vous qui dites que vous êtes un peu plus solitaire, etc., mais est-ce que vous pensez qu'avoir des relations sociales de manière générale, c'est important quand même ? Dans le sens où peut-être que vous attendez que les autres viennent vers vous, mais une vie sans relations, c'est compliqué, ou pas ?
Ouais, je pense. Parce que c'est sûr que si t'as pas... Bah, à part ta famille, que t'es pas des amis ou quoi, voir tout le temps les mêmes personnes, ça peut devenir lassant.
Ouais, effectivement. Et est-ce que vous arrivez facilement à... Enfin, j'entends que vous avez du mal parfois à venir vers les autres, mais est-ce que vous arrivez facilement à faire confiance aux gens ? Aux autres ? Non.
Moi, oui. Moi, oui.
Non. Ok, alors Lucie, non. Salma, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire confiance ?
Bah, moi, personnellement, j'aime pas forcément trop de parler de mes problèmes. Quand ça va pas, je le dis pas forcément, à part aux personnes... En qui, genre, je suis vraiment à l'aise avec eux, j'ai vraiment confiance. Quand j'ai un problème ou quand ça va pas, là, je peux me permettre de leur dire sans être gênée ou avoir peur. Mais sinon, non, j'aime pas forcément parler de mes problèmes et tout ça.
Non, parce que moi, je me dis en soi qu'on finit jamais de connaître quelqu'un. En soi, tu fais confiance à quelqu'un et le lendemain, c'est la même personne qui te poignarde dans le dos. Du coup, moi, je préfère me faire confiance qu'à moi-même et... pas quelqu'un d'autre.
Mmh. Ouais, ça revient souvent à cette question de trahison, si je peux dire, le fait de raconter des choses à des potes que vous pourriez avoir et en fait que ça se retourne contre vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça?
Oui.
Ouais. Et est-ce que, pour quelles raisons, en fait, les gens font ce genre de choses?
Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. C'était mon ancienne meilleure amie et je voulais juste, tout simplement, j'ai décidé de plus être pote avec elle, pas forcément pour une raison, je voulais juste rester seule dans mon coin, je voulais plus trop avoir d'amis à ce moment-là. Donc j'ai décidé de plus être amie avec elle. Le lendemain, est-ce que je peux dire... Non, on va pas dire qu'elle m'a fait une réputation, mais elle m'a fait passer pour la meuf en mode... oui, aller chez elle, elle est grave facile, etc. Dans ce genre de choses. Ça, j'ai pas aimé, donc en gros, elle m'a fait une réputation dans toute mon ancienne école. Je suis restée, c'était en première secondaire, je suis restée 2 ans après ça, et c'est après cette année que je suis venue ici.
Donc c'était un peu par souci de vengeance, quoi.
Ouais.
Et ça t'a fait quoi, toi?
Bah, moi, ça m'a saoulée un peu que tout le monde vienne vers moi, surtout les garçons qui viennent vers moi, ça m'a un peu saoulée. Moi, je suis très cash, hein, donc ça veut dire des fois, je leur criais dessus. Moi, je suis pas le genre de personne à aller parler aux adultes. C'est vrai que c'est mal, des fois, mais... Je suis vraiment pas ce genre de meuf, je suis la meuf, je suis cash, je te dis la vérité en face. Et si des fois tu parles beaucoup trop mal, ça peut partir avec les mains.
Et est-ce que du coup tu dirais que tu vas toujours essayer de solutionner une situation que tu rencontres par toi-même?
Oui.
Ouais. Ça t'est jamais arrivé d'aller vers d'autres adultes, que ce soit l'école, que ce soit ta famille, que ce soit
en service social? J'ai jamais été chez un adulte, jamais, non.
Et qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas vers les autres, enfin vers les adultes?
J'aime pas trop parler de mes problèmes, surtout aux adultes, parce que leur seule solution, c'est surtout la plupart du temps de parler à ta famille, ou la plupart du temps, c'est prendre un psy. Moi, j'aime pas, je suis vraiment, je me renferme sur moi-même, j'aime bien rester seule dans ma bulle.
Et t'arrives à passer au-dessus via ce mécanisme-là?
Oui.
Ouais. Ok. Et les autres, est-ce que vous avez aussi un peu ce genre de ressenti, ou est-ce que vous réagissez différemment? Est-ce que vous, ça vous avez facile à aller, par exemple, vers les adultes pour justement trouver de l'aide? Non.
Parce que, comme elle a dit, moi je trouve que créer des réputations, dit que ouais, elle a dit tel, genre c'est des problèmes banaux, genre tu peux appeler ça la trahison. Par exemple, moi, je n'ai jamais des petits problèmes de l'école, je ne vais pas prendre ça pour une trahison, parce que pour moi, en soi... des amis que j'ai à l'école, ça s'arrête à l'école. Par exemple, moi, je dirais un truc, moi, si je me confie à quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je vis qui est vraiment beaucoup toxique pour moi, ou qui me fait vraiment mal, un traumatisme, même à la limite. Et si tu me trahis sur ça, c'est ça qu'on appelle une trahison. Elle a dit à tel. Moi, c'est juste des problèmes de l'école. Et du coup, je vais jamais aller chez un adulte pour... Me confier ce que j'ai dit à cette personne, parce que déjà que la personne m'a trahi même fois.
Mais tu ne penses pas que tu pourrais avoir plus confiance aux adultes, par exemple, pour certaines situations, que par rapport à d'autres jeunes? Parce que tu vois, nous, par exemple, c'est un service, on a un service donc d'aide aux jeunes et aux familles, mais on travaille avec le secret professionnel. Donc tu vois, nous, si on trahit un secret, nous, on peut avoir des sanctions assez importantes. On pourrait peut-être perdre notre travail aussi, tu vois.
J'ai déjà essayé une fois avec l'ancien psychologue de mon école. Et en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai vu que mon père, il était au courant de tout, donc bon.
Ok, ils ont appelé. Et ils t'avaient pas demandé ton accord avant?
Non.
Effectivement. Mais je comprends, alors que ce genre de situation, ça refroidit, mais en tout cas sache que normalement c'est pas comme ça que ça doit se passer. En général, on doit aussi au moins demander ton accord avant de pouvoir appeler tes parents, quoi. Donc j'espère que peut-être qu'à l'avenir, si tu ressens le besoin d'aller quand même discuter avec quelqu'un, un professionnel, tu essaieras de pousser la porte, quoi. En tout cas, sache que nous, on est là, et je pense que c'est une bonne manière de terminer cette émission. Malheureusement, on doit clôturer ici déjà maintenant. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on ne fait pas que des émissions radio, on est aussi là pour répondre à vos questions, si jamais. Ça va ? Pour vous écouter, vous orienter. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette émission. Nous, on a passé un très bon moment, j'espère que
merci
vous
aussi. Merci à vous.
Merci.
Et on peut s'applaudir. Merci.
Bye bye.
tous nos sons sur samarcande.be.